Frères et sœurs, aujourd'hui, 22 janvier, dans tous les diocèses catholiques des États-Unis, c'est le Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children. La journée de prière pour la protection légale des enfants à naître. Et cet après-midi, à Paris, il y aura ce qu'on appelle la Marche pour la vie, un événement qui a lieu chaque année le troisième dimanche de janvier. Il ne faudrait pas voir dans cette intention de prière une espèce de tocade, en l'occurrence des évêques des États-Unis, qui sont même tous unis sur ce... Mais ça fait partie des grandes intentions de l'Église. La protection de la vie et particulièrement des enfants qui sont encore dans le sein maternel. D'autre part, et nous concentrerons sur ce point, ce dimanche tombe dans la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Peut-être avez-vous remarqué que la prière d'ouverture était une prière spécifique pour l'unité des chrétiens, et ce sera le cas aussi des autres prières de cette messe ainsi que de la préface. Par une coïncidence providentielle, cette année, la deuxième lecture, tirée de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, cadre tout à fait avec cette intention de l'unité des chrétiens. On pourrait dire elle cadre par contraste. C'est-à-dire que, comme nous l'avons entendu, la question des divisions au sein même des communautés chrétiennes, au sein même de l'Église, ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Elle remonte aux origines même de l'Église. « Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, dit saint Paul, qu'il y a entre vous des rivalités. » Le mot qui est traduit ici par rivalité peut aussi se traduire par dispute. Il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des dissensions. Et saint Paul continue, « Chacun de vous prend parti en disant, moi j'appartiens à Paul, ou moi j'appartiens à Apollos, il y a ceux qui disent, moi j'appartiens à Pierre, et ceux qui disent, moi, j'appartiens au Christ, comme si tous n'appartenaient pas au Christ, d'ailleurs. Donc vous voyez ce problème des partis. Malheureusement, au cours de l'histoire de l'Église, ces dissensions, surtout lorsqu'elles ont porté sur des points de doctrine, ont amené à des schismes. Et alors que dans l'intention de Jésus-Christ, il ne devrait avoir qu'une Église. Une Église, l'Église catholique, l'Église qui couvre toute la terre et comprend tous les chrétiens, eh bien nous constatons que les chrétiens sont divisés. Il y a, si on prend trois grands blocs, il y a les catholiques, bien sûr, mais aussi les orthodoxes. Et quand on dit les orthodoxes, en fait, il y a les Coptes, il y a les Arméniens, les Éthiopiens, tous ces gens-là ne sont pas en communion les uns avec les autres. Et puis il y a le grand groupe des protestants qui lui-même est extrêmement fragmenté. Alors nous n'allons pas faire l'historique de tout cela, mais nous le constatons et c'est un objet de scandale pour les non-chrétiens. Vous nous dites, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, soyez unis par l'affection fraternelle, et voilà que vous êtes divisés, et même, hélas, parfois en interne. Il y a encore 50 ans, il y a eu de telles dissensions au sein de l'Église catholique en France que ça a amené au schisme, qu'il faut bien appeler le schisme lefévriste, ceux qui ont dit, moi, je tiens les opinions de Monseigneur Lefebvre. Et voilà qu'il y a eu un nouveau schisme. Alors, écoutez bien à ce propos ce que dit très justement Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris, dans sa récente lettre pastorale aux catholiques de son diocèse. Pour vivre une église de la communion, il faut nous affranchir des grilles de l'analyse politique. Je ne veux pas dire par là que les chrétiens seraient apolitiques. Je dis seulement que les qualificatifs de droite et de gauche, de progressistes et de conservateurs, de réformistes et de révolutionnaires, ne permettent pas de rendre compte de ce qui anime vraiment ceux qui se mettent à la suite du Christ. Cette lecture est toujours un piège et beaucoup s'y sont fourvoyés au long des âges. Soyons attentifs à cela, frères et sœurs, ne nous collons pas d'étiquettes sur le front pour discréditer celui que nous regardons, hélas, comme un adversaire. Ceci vaut aussi pour une certaine lecture des divisions entre chrétiens, selon laquelle nous considérerions, par exemple, que les protestants sont d'affreux libéraux et que les orthodoxes sont d'horribles conservateurs. Il est très important, chers frères et sœurs, que nous n'enfermions pas les chrétiens non catholiques dans des catégories humaines, mais que nous les considérions comme de véritables frères et sœurs dans le Christ, et que nous portions sur eux un regard plein de bonté. Ceci vaut aussi, bien sûr et éminemment, pour nos propres frères et sœurs au sein même de l'Église catholique, au sein même de notre paroisse, au sein même de nos familles. Laissez-moi, à ce propos, vous citer quelques passages très explicites du magnifique décret du Second Concile du Vatican sur l'écuménisme. Je vous en recommande la lecture, chers amis. Unitatis Red Integratio, un petit bijou. Écoutez ceci. Les chrétiens qui naissent aujourd'hui dans des communautés séparées de la pleine communion avec l'Église catholique ne peuvent être accusés du péché de division. Ceci vaut aussi, chers amis, pour les jeunes catholiques, ils se disent catholiques, lefèvristes. N'allons pas tout de suite les regarder comme des grands méchants qui auraient péché gravement. Non, pas du tout. Les chrétiens non catholiques qui naissent dans ces communautés aujourd'hui ne sont pas responsables du schisme qui a eu lieu il y a X années. Ils sont, retenons cela, ils sont de bonne foi. Le décret continue, justifié par la foi reçue au baptême, incorporé au Christ, il porte à juste titre le nom de chrétien, et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères et sœurs dans le Seigneur. J'entends encore le cardinal Casper, préfet du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, lors du rassemblement écuménique européen de Sibiu en Roumanie, c'était il y a un peu plus de 15 ans, nous disant ceci: la grâce de l'écuménisme, c'est d'avoir redécouvert que nous ne sommes pas les uns pour les autres des étrangers ou des concurrents, mais des frères et sœurs dans le Christ. Revenons, si vous voulez, au décret conciliaire Unitatis Red Integratio, ce qui signifie littéralement la réintégration de l'unité, refaire la totalité. Nous y lisons que le Saint-Concile exhorte tous les fidèles à prendre une part active à l'effort écuménique. Autrement dit, pour résumer le propos, l'écuménisme est une bonne chose. Et le décret donne aux fidèles catholiques, nous donne ses conseils. Ils se montreront pleins de sollicitude à l'égard de leurs frères et sœurs séparés. Ils prieront pour eux et feront vers eux les premiers pas. Ceci est très important, car nous vivons dans un pays où il faut bien reconnaître que l'élément catholique est largement majoritaire, si on regarde parmi les chrétiens, et un pays profondément imprégné par le catholicisme. Et donc, qu'on le veuille ou non, nos frères et sœurs non catholiques, qu'ils soient protestants ou orthodoxes, sont en situation de minorité, avec ce qu'on peut appeler le complexe de la minorité, qui est un peu timide, qui ne sait pas. Donc c'est à nous, en tant qu'élément majoritaire, de faire vers eux les premiers pas. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous encourager vivement, dans la mesure où vous en rencontrez, ce qui n'est peut-être pas si facile en Charente, mais comme on dit, il faut sortir le dimanche, on peut parfois se promener. Laissez-moi vous encourager à faire preuve d'une grande bienveillance envers les chrétiens non catholiques que vous viendrez à rencontrer ou que vous connaissez peut-être déjà. Cherchez à les connaître, y compris en allant assister à leur célébration. Je peux témoigner pour ma part, ayant bien des fois assisté, que ce soit à des liturgies orthodoxes, à des cultes protestants, que j'en ai toujours été édifié et fortifié dans ma foi catholique. Donc ce n'est pas parce qu'on va assister à l'office de l'autre qu'on se convertit à sa confession, pas du tout. C'est un témoignage d'amitié et de désir de connaître. Bien sûr, on ne communie pas, puisque nous ne sommes pas en communion, sauf si vous êtes au fin fond de la Russie et que vous n'avez pas la possibilité physique d'assister à un office catholique ce dimanche. Dans ce cas-là, nous avons les mêmes sacrements que les orthodoxes. Écoutons, si vous voulez, pour conclure, ce que disait le cardinal Mercier, notre ami archevêque de Malines en Belgique, grande figure de l'épiscopat européen dans le premier quart du XXe siècle. Il nous a laissé un très beau testament œcuménique qui a presque exactement un siècle et dans lequel il dit ceci. Pour s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut aller à la rencontre l'un de l'autre. On pourrait dire que c'est valable dans tous les cas, mais ça s'applique particulièrement à la dimension œcuménique de la connaissance entre chrétiens. Et il ajoutait ceci. Écarter les obstacles à l'union des chrétiens, c'est notre tâche. L'union elle-même sera l'œuvre de la grâce à l'heure que daignera choisir la divine providence. Eh bien, frères et sœurs, ne soyons pas des fauteurs de troubles, de ceux qui érigent des barrières entre chrétiens, même en interne dans l'Église catholique. Soyons plutôt, comme dirait le pape François, de ceux qui jettent des ponts, qui construisent des ponts, soyons des artisans d'unité.